solaire SPF 50+, offerte dans la limite des stocks disponibles. Source Gers Data à fin décembre 2023.
Toute l'équipe du Magéco vous souhaite un excellent week-end. Ne manquez pas, après le journal, l'émission cinéma. On aura tout vu de Christine Masson et Laurent Delmas. Ils sont en direct du Festival de Cannes. Il est 10h sur France Inter. Et c'est l'heure des informations avec Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Un sixième mort dans les violences en Nouvelle-Calédonie. Ça s'est passé dans la province nord de l'archipel français. Un échange de tirs à un barrage tenu par des émeutiers. Tandis qu'à Paris, les présidents des deux chambres et des députés de tous bords plaident pour un report du projet de réforme constitutionnelle vers une consultation à 30 euros chez le généraliste. C'est le projet d'accord finalisé hier soir entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux. Accord qui doit encore être ratifié. Et puis portrait à la fin de ce journal de Romain Cannon, espoir de médaille au JO de Paris. C'est le champion olympique en titre d'épée.
France Inter.
Le bilan des violences en Nouvelle-Calédonie s'alourdit. Un homme est mort ce samedi. Deux autres ont été blessés dans un échange de coups de feu. D'après les informations de Nouvelle-Calédonie la première, l'homme a voulu forcer un barrage tenu par des émeutiers. Les faits se sont passés à Calagomène, commune de la province Nord. En tout, depuis lundi, ce sont donc 6 personnes, dont 2 gendarmes, qui ont perdu la vie. Avant cet échange de tirs, la nuit avait été plutôt calme. À Nouméa, toujours sous état d'urgence, comme l'ensemble de l'archipel. Comment calmer la situation, revenir à la normale? Hier soir à Matignon, le Premier ministre recevait les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Et la plupart des présidents de groupe, tous ou presque, ont plaidé pour un report de la réforme du corps électoral. Réforme dont l'adoption par les députés a mis le feu aux poudres. Maxence Lambrecq.
Ils ne sont que deux députés opposés à ce qui, pour tous les autres, semble une évidence. Le report du Congrès censé entériner l'élargissement du corps électoral. Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, à la tête de l'Assemblée et du Sénat, ont plaidé pour un nouveau calendrier, oublié la fin du mois de juin. Les deux qui tiennent à avancer coûte que coûte, autrement c'est donner raison aux émeutiers et à la violence, sont Olivier Marleix, patron du groupe LR à l'Assemblée, et Nicolas Metzdorf, député de Nouvelle-Calédonie opposant à l'indépendance. La plupart ont aussi prôné pour une mission de dialogue, considérant que l'exécutif n'est plus à même d'animer les négociations. Il faut, selon Marine Le Pen, que ce soit des personnes de sensibilité différentes et acceptées localement. Gabriel Attal a pris des notes. C'était un greffier, s'amuse un député. Il n'a rien annoncé car tous décident à l'Élysée. Que ce soit le nouveau calendrier, l'éventuelle mission de dialogue, sa composition, tout comme le maintien de l'état d'urgence. Un texte de loi est en préparation pour pouvoir prolonger, si nécessaire, ce dispositif au-delà des 12 jours réglementaires. La cellule interministérielle de crise reste ouverte.
Sur place, l'approvisionnement en nourriture et en médicaments est extrêmement difficile en raison des barrages. Plus aucun vol commercial n'atterrit ou ne décolle de Nouvelle-Calédonie. 3200 personnes sont ainsi bloquées dans et en dehors de l'archipel. 37, c'est le nombre final de listes qui concourront pour les élections européennes dans 3 semaines, le 9 juin. C'est trois fois plus qu'aux dernières élections en 2019. La date limite de dépôt était fixée à hier, 18h. Chaque liste comporte 81 noms correspondant au nombre d'eurodéputés français au sein du Parlement européen. Une consultation à 30 euros chez le généraliste, c'est le projet d'accord finalisé hier entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux, et ce pour les 5 prochaines années. Le tarif actuellement de 26,50 euros devrait augmenter en décembre. Un projet d'accord qui doit maintenant être ratifié par une majorité d'adhérents de ces syndicats pour entrer en vigueur. Les négociations avaient repris en novembre après un premier échec en février 2023. Que se passera-t-il si l'accord est rejeté? Écoutez la réponse de Thomas Fatome, directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Il était l'invité de France Inter ce matin.
Honnêtement, s'ils disent non, eh bien, il ne se passera rien. On revient à ce qu'on appelle dans notre jargon, techniquement, le règlement arbitral. On reste à 26,50 euros, ça sert de convention actuellement. On ne peut pas faire d'avenant, donc on ne peut pas modifier le système. On a fait le choix, justement, de faire revenir à la table des négociations en novembre dernier parce qu'on ne se satisfaisait pas de ce règlement arbitral. Il ne portait pas d'évolution, de transformation. Et donc, c'est vrai qu'il faut bien réfléchir quand on se dit, est-ce que c'est l'accord absolument rêvé par tous les syndicats? Je ne sais pas, par définition, sûrement pas. C'est le dialogue social, un accord, c'est toujours un compromis. C'est aussi un compromis pour l'assurance maladie. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas d'accord, et bien là, il ne se passera rien. Et je crois aussi qu'un deuxième échec, après celui qui est intervenu au bout de 2023, les gens pourront s'interroger pour savoir si est-ce que ce système, finalement, de discussion conventionnelle entre l'assurance maladie et les médecins, est-ce qu'il marche bien. Donc, je pense que chacun doit bien mesurer dans les jours qui viennent que ce qui est sur la table est historique et ce qui est sur la table, je pense, doit nous permettre de transformer le système de santé en profondeur.
Thomas Fatome sur France Inter ce matin. En Moselle, toujours en vigilance rouge au cru, la pluie a cessé. La situation est donc en voie d'amélioration, indique le préfet Laurent Touvet. Il n'y a pas de morts ni de blessés à déplorer. 150 personnes ont dormi hors de leur domicile la nuit dernière. À signaler que le Bas-Rhin reste en vigilance orange. Retour à la normale en revanche en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. En Israël, la mobilisation continue contre la guerre et pour le retour des otages. Avec, comme tous les samedis, des manifestations, notamment à Jérusalem et Tel Aviv. Parmi les citoyens qui défilent, les Arabes israéliens sont quasiment absents. Beaucoup craignent des représailles. Même à Haïfa, dans le nord d'Israël, ville symbole de la coexistence entre juifs et arabes. C'est un reportage de Farida Noir et Fabien Gosset.
Dans ce bureau de tabac, Akram l'assure, il est libre ici à Haïfa de manifester pour le retour des otages et contre le gouvernement.
Oui, oui, la police veille sur l'ordre. Il n'y a jamais eu de problème avec eux.
Mais ce sentiment de liberté, Mohamed, la vingtaine, ne le partage pas. Ils ne vont pas vous dire que ça ne va pas parce qu'ils ont peur, dit le jeune homme. Lui ne participe à aucun rassemblement.
Si on se fait arrêter, ça peut avoir des conséquences sur nos études ou si on fait un prêt immobilier. Et on ne sera pas libéré facilement alors qu'un juif le sera. Les Arabes sont opposés à la guerre, mais ce n'est pas quelque chose que l'on va dire en public ou dans les rues. On se sert plutôt des réseaux sociaux. C'est là que j'exprime mon opposition, je like, je partage des contenus sur ça.
En octobre dernier, après une manifestation non autorisée en soutien à Gaza, Kobi Shabtai, le chef de la police israélienne, avait menacé les Arabes israéliens de leur mettre des bus à disposition s'ils veulent retourner à Gaza. Isaac est restaurateur.
Je ne veux pas qu'on me voit dans des manifestations. De toute façon, de ce que je vois dans les manifestations, la police ne fait pas de distinction entre un juif ou un arabe. Elle arrête et frappe tout le monde. Malheureusement, c'est ça la police que l'on a maintenant.
L'ONG Mossawas, qui veut dire égalité en arabe, constate une hausse des discriminations systémiques à l'égard des citoyens arabes d'Israël depuis la guerre, comme des arrestations ou encore des agressions.
Farida Noir et Fabien Gosset à Haïfa. À Gaza, les premières livraisons d'aide humanitaire ont commencé via la jetée flottante construite par les États-Unis. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky redoute une intensification de l'offensive russe jusqu'à la grande ville de Kharkiv, située à 30 km de la frontière dans le nord-est du pays. Les forces de Moscou ont avancé ces derniers jours dans la région et 10 000 personnes ont été évacuées. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais vos ados sans doute. Le célèbre youtubeur Inoxtag s'est lancé le défi de gravir l'Everest, le plus haut sommet du monde. Mais depuis son départ début avril, plus de nouvelles, pas d'image directe de lui, aucune photo ni vidéo. De quoi inquiéter vivement ses jeunes fans, Victor Vasseur.
Depuis un mois, Sophia est anxieuse. Le voyage d'Inoxtag tracasse cette collégienne de 13 ans.
J'ai grandi en voyant ses vidéos et en étant au courant de ce qu'il fait, etc. Je me dis, est-ce qu'il va bien? Parce que tu te dis que peut-être qu'il reviendra pas.
Elle y pense, même à l'école.
Parfois, en cours, les profs me disent que t'es pas focus avec nous.
Tous les jours, Alexia, 19 ans, écrit des messages sur Instagram pour soutenir le youtubeur.
Du coup, moi, j'ai très peur pour lui. Tous les soirs, je pense à comment il est, comment il va et tout.
Les fans comme Alexia doivent se contenter des rares images postées sur les réseaux sociaux par le guide d'Inoxtag, ce qui laisse libre cours aux fausses informations.
Inox, il est mort, ou il est tombé, ou sinon ils disent que Inox, il est monté en hélicoptère pour tricher.
Cette absence sur les réseaux a un objectif clair, explique Lucille Coquelin, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Rouen.
C'est de créer une attente. C'est comme la stratégie du silence radio. Comment est-ce que ça viendrait créer du manque si il a bien réussi sa stratégie de communication? Il y a de fortes chances que la prochaine vidéo qu'il mette en ligne où il va raconter cette ascension, c'est qu'elle cartonne.
Justement, le youtubeur et son équipe ne diront pas s'ils ont réussi ou non l'ascension. Ils réservent cette annonce pour un documentaire prévu en septembre.
Victor Vasseur. Et à deux mois des JO de Paris, l'actualité pour les athlètes, c'est la qualification. Pour les escrimeurs, les épéistes précisément, ça se passe au Challenge Monal à Saint-Maur, qui débute aujourd'hui, la plus prestigieuse des épreuves de la saison de Coupe du Monde d'épée. Et la dernière, avant de connaître la sélection pour les Jeux de Paris, ils sont 7 pour 4 places, dont 3 en individuel parmi les postulants. Romain Cannon, champion olympique en titre. Fabrice Abgral.
Personne ne l'attendait, mais c'est bien lui qui a fait retentir la première Marseillaise aux Jeux de Tokyo en 2021. Le 25 juillet, Romain Cannon est sacré champion olympique à l'épée à 24 ans, alors qu'il n'était que 47e mondial et qu'il n'était jamais monté sur le moindre podium, toute compétition confondue.
C'est les JO, tout est faisable. L'escrime, c'est un jeu d'échecs, c'est dur, c'est vraiment l'arme de combat, c'est qui en veut le plus. Et moi, je me suis dit, vas-y à fond, aucun regret, et c'est ça qui m'a donné cette force.
Et c'est avec cet état d'esprit que Romain Cannon confirme l'année suivante en décrochant le titre mondial au Caire. Champion olympique, champion du monde, un double statut qu'il doit assumer.
Derrière, ça a été même très dur de me remotiver en fait. Heureusement qu'il y avait Paris, parce que c'était ça, cette motivation, cette flamme qui m'a dit non, hop, ça a relancé un peu la machine. Mais c'est vrai que quand on fait ces deux beaux titres qui sont un peu l'accomplissement d'une carrière, ça c'est devenu comme un tsunami. J'étais pas préparé à gérer. Du coup, il faut redescendre sur terre, et ça c'est ce qui est bien, c'est que j'ai toujours su le faire, quoi.
Il serait facile de penser qu'aujourd'hui, avec son palmarès, Romain Cannon n'a plus rien à prouver. Lui n'est pas d'accord.
J'ai juste à prouver à moi-même que je peux encore le faire. C'est ça qui est bien, c'est que quand on a fait des très beaux titres, c'est pas que c'est du bonus le reste, mais c'est que en fait c'est juste à toi-même que tu peux te le prouver, et du coup ça peut t'enlever un peu de poids de temps en temps. Alors que là, des fois, à certains moments, j'ai cette confiance parce que je sais que je l'ai fait. Et du coup, des fois, je me dis, fais-toi confiance. Et c'est ce qui me fait marcher des fois.
Reste maintenant à gérer la pression à 2 mois des Jeux de Paris.
C'est tellement un événement d'apothéose qui est tellement important qu'on a une pression de dingue. Peut-être que je suis vu comme le favori, mais je vais me mettre aussi une pression de dingue parce que ça fait 3 ans que je me mets une pression pour réussir. J'ai hâte de voir ce que ça me fait et comment ça va me porter.
Mais pour l'heure, avant le décisif challenge Monal, Romain Cannon n'est pas assuré d'être sélectionné pour les Jeux de Paris. Il fait partie des prétendants au même titre qu'une dizaine d'épéistes, dont Yannick Borel et Alexandre Bardonnet, avec lesquels il a été champion du monde par équipe en 2022.
Allez, encore un peu de patience, on connaîtra la sélection pour les Jeux dans 10 jours.
France Inter, 13h20, Jacques Monin.
Ce samedi, enquête sur Orpea 2 ans après. Le groupe a changé de nom et modifié ses pratiques, mais on verra que tout est loin d'être réglé.
Secret d'info, tous les samedis à 13h20 sur Inter. Leclerc.
Saint-Nazaire, Bayeux, Aubenas.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je vérifie si le Festival Culturissimo des Espaces Culturels Leclerc passe près de chez nous. Il y a des lectures, des concerts et des lectures musicales gratuites.
Et alors ? Le festival passe à Blois ?
Bien sûr. David Fuenquinos y fait une lecture.
Cool ! On y va ?
Culturissimo, c'est le Festival des Espaces Culturels Leclerc avec près de 90 événements gratuits partout en France. Demandez votre invitation en magasin dans la limite des places disponibles. Magasins participants et événements sur www.culturissimo.leclerc.
France Inter, partenaire du Printemps des Comédiens, du 30 mai au 21 juin, au Domaine d'Eau à Montpellier. Cyril Teste, Jean-François Sivadier, Guillermo Calderon, Myriam Muller, Marina Otero, Wajdi Mouawad, Emma Danté, Christiane Loupa, Jean Bellorini, Katia Ferreira, Joël Pomera, Lionel Drey et Clémence Jean-Guillaume, Georges Lavaudan, Brigitte Négro et tant d'autres artistes. Le Printemps des Comédiens du 30 mai au 21 juin, au Domaine d'Eau à Montpellier, un événement France Inter.
10h13 sur France Inter, sans plus attendre, on file à Cannes. Nous attendent Laurent Delmas, Christine Masson. Bonjour.
Merci Corinne. Merci. Bonjour.
Bonjour.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle.
Allez, action !
Action, pourquoi faire ?
Cannes. Americans, we say Cannes.
On dit
we
Cannes.
We think it's fancy to say Cannes.
On dit que ça fait très chic de dire Cannes. Mais c'est tout à fait erroné.
Cannes.
Cannes, avec l'accent de Meryl Streep. Nous y sommes en direct du Palais des Festivals pour cette 77e édition de Cannes. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous sur La Croisette.
Sur cette belle affiche tirée de Rhapsody en août de Kurosawa, 5 personnes sur un banc regardent l'horizon, celui du cinéma et du futur, que nous allons célébrer ce matin, notamment avec 2 jeunes invités en direct comme de belles promesses. Louise Courvoisier, son premier film 20 dieux, présenté à un certain regard. regard et vers la fin de cette heure, une autre première œuvre signée Jonathan Millet qui ouvrait la semaine de la critique avec Les Fantômes, un passionnant film d'espionnage 2.0. Nous entendrons aussi Agnès Jaoui et Claire Simon et nous passerons en revue, Laurent, les premiers films de cette compétition 2024. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
When does an empire die? Does it collapse in one terrible moment? No, no. But there comes a time when its people no longer believe in it.
C'est le doyen de cette compétition, Francis Ford Coppola, 85 ans et déjà deux palmes d'or. Il propose ce récit futuriste, mégalopolis dans New York dévasté. Deux hommes s'opposent, le maire Frank Cicero, corrompu et conservateur, et César, l'architecte utopiste qui a découvert un matériau miraculeux, le mégalon. La première scène, Laurent, laissait présager le meilleur, César. Au bord d'un building, entame une chute vertigineuse qui l'interrompt parce que, voyez-vous, César est capable d'arrêter le temps, mais pas Coppola apparemment, dont les années ont usé son cinéma et son imaginaire.
Et oui, les méchantes langues ont déjà titré le film Mégalopola. Ils n'ont pas forcément tort. On est un peu triste, voire très très triste, de voir le cinéaste s'embourber dans ce qui n'est pas son univers. Et moi, je n'ai pas cessé de penser tout au long du film à un autre film sur un architecte vertueux dans un monde plutôt pourri. Ça
s'appelle Rebelle.
Le Rebelle de King Vidor, ouais. Avec Gary Cooper. Il vaut mieux le revoir.
Grande émotion à l'ouverture de la quinzaine des cinéastes avec ce film Ma vie, ma gueule de Sophie Filière, disparue depuis et qui a passé le flambeau avant de mourir à ses deux enfants, Agathe et Adam, pour le montage et la post-production. Ce film, comme un autoportrait de la cinéaste incarnée par Agnès Jaoui, une femme qui trompe la mort, la détresse, le craquage, ses drôles, poétiques, absurdes, rencontre avec Agnès Jaoui et Agathe Beninzer.
Excuse-moi, mais je peux pas trop parler. Là.
Ah bon, bah écoute, je te laisse. Hein. T'es déjà occupée, tu fais quoi?
Je suis au sport.
Ouh là là, bravo. Je sais pas comment tu fais. Hein. Moi, à chaque fois, j'essaye d'y aller. Je regarde mes affaires pendant 3 heures.
Attends. Je mets mes oreilles. D'accord. Quand on a su que Sophie pourrait pas faire le montage, enfin bref, qu'elle est... évidemment, j'ai dit à la productrice Julie Salvador que j'étais disponible s'il fallait, et je savais aussi que Sophie avait énormément d'amis réalisateurs, réalisatrices, donc je savais que. Et quand elle m'a dit non, mais en fait Sophie voulait que ce soit ses enfants, j'ai trouvé que c'est tellement évident, beau, une façon de. Enfin, ça lui ressemble, je trouve aussi à Sophie, enfin à la fois un choix original mais complètement naturel. Et quand j'ai vu le film fini par eux, avec François Quiqueré évidemment le monteur, alors là c'était encore plus réussi puisque c'était le montage était parfait, enfin je sais pas comment dire, enfin c'était Sophie qui continuait à s'exprimer.
Parce que c'est quelque chose de faire son deuil en montage, en travaillant aussi. Peut-être que ça passe aussi quelque chose. Peut-être que la douleur est moindre.
Je sais pas, faudrait demander à d'autres. En tout cas, c'est quelque chose, c'est sûr. Mais je pense que c'est quand même un cadeau d'avoir pu continuer à être avec elle à travers le film, à travers tous ses films, et d'avoir ça comme trésor, quoi.
S'il fallait, Agnès, résumer ce film irrésumable, est-ce qu'on peut dire que, à 55 ans, comment faire avec soi-même? Est-ce que c'est un peu ça l'idée du film?
Effectivement, le personnage est une femme qui traverse des épreuves, qui est seule, et qui sait, enfin, qui a un fond, est-ce qu'on va appeler ça dépressif, psychotique, enfin bref, qui a une certaine fragilité, mais qui veut aller bien et qui traverse ce moment de sa vie. Mais je pense qu'il y a toutes sortes de parcours. Après, pour les femmes notamment, je pense que c'est une étape particulière. Passer 50 ans, on va dire, ou je sais pas, pour certains beaucoup plus jeunes. Mais bref, c'est vrai que c'est des étapes particulières pour beaucoup de femmes.
C'est votre troisième personnage un peu borderline de l'année, hein. Après La vie de ma mère et après
Le dernier des Juifs. C'est très étonnant, oui. Cette sorte de trilogie qui s'est passée. C'est aussi des trois personnages de mère. Et trois personnages de mère défaillante, mais ma foi, pareil, est-ce qu'on peut être autre chose qu'une mère défaillante, même si on a toute l'idée et la pression sur les épaules qu'il faut être une mère parfaite, mais là non plus, parce que ça n'existe pas. Dieu merci d'ailleurs pour les enfants. Oui, c'est des drôles de hasards dans la vie, bon, même si j'ai plus l'âge d'être mère que d'être une petite fille, mais c'est surtout trois personnages incroyables et celui de Sophie. Bon, enfin bref, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film.
Pour encore revenir à ça, mais c'était troublant de jouer la femme qui était en face de vous et qui vous dirigeait, la jouer sans la jouer.
Ce qui était troublant, c'est de jouer chez elle et de jouer avec son psy, par exemple.
Son vrai psy ?
Oui, le psy de... Enfin, le monsieur avec lequel je joue est le vrai psy de Sophie dans son vrai cabinet. Donc ça, c'était assez troublant, on peut dire.
Ça s'est passé comment avec le psy ?
Ouais, ça a été assez drôle.
Parce qu'il s'est mêlé un peu du film ?
Oui, c'est pareil, il a pensé qu'il fallait me diriger à un moment.
Parlez-moi de vous, plutôt.
Vous m'énervez.
Oui ?
Ah non, mais là encore plus. Intérieurement, je boue, ça se voit pas, mais je boue. Oui, très bien. Très bien quoi ? En sortant, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de si très bien ? Qu'est-ce qu'il y a de très bien, en fait ? C'est des singeries, tout ça. Vous singez le psy, et moi, je singe la patiente. On est deux singes assis face à face.
Ma vie, ma gueule, de Sophie Filière, sur nos écrans le 18 septembre prochain. Bonjour, Louise Courvoisier.
Bonjour.
Avant de vous écouter, un petit extrait de votre super film, Vin Dieu.
Tu fous, c'est quoi ce truc d'Obélix, là ?
Je veux faire du fromage. Je rappelle que je te disais que le fromager d'Orgelet s'était fait un paquet de thunes avec ses médailles, là. Si je me fais le compté d'or, je peux me faire 30 000 balles, mon gars. Viens m'aider, Jean-Jean.
Compté d'or ?
Il est pas un peu vieux, ton machin, hein ? Pourquoi tu veux soulever ?
Faire un feu, du con.
C'est faire du feu, toi ?
C'est faire du fromage, surtout.
Allez, soulevez chacun une poignée.
Tu vas jamais la gagner, la médaille, Totone.
Pourquoi ? Faut que je récupère mon tracteur.
Vin Dieu, Louise Courvoisier, une aventure fromagère, mais surtout un récit initiatique, celui du jeune Totot, c'est Clément Favot, dans un petit village du Jura, confronté dès le début du film à la mort du père et qui devra s'occuper de sa petite sœur et surtout trouver le moyen de gagner sa vie. Avant d'aller plus loin dans le film, Louise Courvoisier, ce premier film est inspiré des gens qui vous entourent depuis l'enfance dans le Jura.
Oui, c'est inspiré. Enfin, j'ai vraiment tourné dans mon village, ouais. Là où j'ai grandi, à Crécia et dans les alentours, quoi. Je me suis inspirée, en effet, des gens avec qui j'avais grandi pour les personnages. Après, le récit est complètement fictionnel. Je suis partie dans mon imaginaire personnel aussi, mais j'avais envie de parler de ces gens avec qui j'avais grandi et j'avais besoin d'un casting justement qui leur ressemblait aussi. Donc, je suis allée faire du casting sauvage autour de chez moi.
Une jeunesse très peu représentée au cinéma, en fait.
Bah oui, c'est vrai qu'elle n'est pas beaucoup représentée. Et
c'est une jeunesse rurale en tous les cas, oui.
Oui, ouais. C'est ça. Ouais. Et c'était important pour moi de pouvoir apporter mon regard justement sur cette jeunesse-là.
Ils sont formidables.
Ouais,
le casting est extraordinaire. On peut peut-être citer Clément Favreau et.
Alors lui, il est éleveur de volailles, votre jeune héros.
Tout à fait. Il travaille dans une ferme de volailles de Bresse.
Ouais, et votre héroïne, qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle travaille dans une ferme élevage laitier. Elle est avec les vaches.
Elle s'appelle Maïwenn Barthélémy. Ouais. Totot a un rêve, un Graal, fabriquer le meilleur comté de sa région, soit une médaille d'or et 30 000 euros à la clé. L'action va se dérouler sur plusieurs mois, comme la fabrication d'un fromage. Ce qui est très beau, c'est l'idée, le temps d'affinage, qui est aussi une métaphore de ce garçon. Il va s'affiner au fil de l'action et du film.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment un parcours parallèle entre le fromage et le parcours de Totone. Et voilà, ils vont évoluer ensemble.
Ah, tu dis Totone, c'est Totone.
Totone,
oui,
bien sûr. Voilà. Et donc les deux vont, ça va finir par fusionner avec ce récit de fromage.
Vous savez le faire, vous le comptez ?
Ah bah j'ai appris pour l'occasion. On avait un coach fromager pendant tout le tournage. Jacques Dupuis.
Mais pas un coach d'intimité, mais un coach fromage.
Voilà,
fromage.
On apprend tous les jours.
C'est très important, les gestes. Hein. Lui, oui. Il apprend qu'on ne fait pas n'importe comment du comté, on ne fait pas n'importe comment du cinéma non plus.
Oui, ça c'est vrai.
Ouais.
C'est vrai. Non, mais oui, c'est sûr que j'avais besoin en tout cas qu'il apprenne ses gestes et que le film raconte qu'il apprend ses gestes aussi et que ce soit aussi le cas dans la vie. La scène du fromage, on l'a faite pour de vrai. Il fait vraiment un comté qu'on a goûté d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Très bon. Enfin, on ne peut pas appeler ça un comté parce qu'on ne l'a pas fait dans les règles de l'AOP. Oui. donc le fromage.
Il l'apprend à son dépens, voilà, d'ailleurs.
Ouais. Exactement.
La découverte du travail artisanal, certes, et puis celle du désir aussi auprès de cette jeune Marie-Lise à contre-courant des stéréotypes de la féminité. On va écouter l'extrait avec les deux.
Qu'est-ce que
t'as ? Rien.
Vas-y, accouche, t'as quoi ?
Je fais tout pour rien, j'arrive à rien. Voilà, c'est tout.
Bah, c'est mal parti, si tu penses comme ça. C'est dans ta tête, ça.
Facile à dire que tes parents t'ont laissé une ferme de 100 hectares.
Facile, ouais. Je me lève à 5h tous les matins. Je finis à 22. J'ai pas de week-end, pas de vacances. Puis je passe pas tout mon week-end à me bourrer la gueule, moi.
À l'attaque ?
Bah non, mais c'est vrai, quoi.
T'as raison, je suis une merde.
Oh, un dieu, mais ça suffit, oui. T'as qu'à arrêter de chialer et puis de sortir les doigts du cul aussi. Hein.
Elle est absolument géniale, cette fille. Comment on dirige ces non-acteurs, alors ? Parce que certes, ils sont dans leur élément, mais c'est quand même une fiction.
Ouais. Ben alors c'est différent pour chaque personne, hein. Ouais. Je me suis vraiment adaptée à chacun. C'est vrai que c'était le plus gros défi du film, de travailler avec des non-professionnels. C'était très important pour le projet, je l'ai jamais envisagé autrement. Mais voilà, je savais pas comment j'allais m'en sortir avec tous ces comédiens, comment j'allais les diriger. Et ça a été beaucoup de répétitions, beaucoup à apprendre à se connaître, et puis connaître les endroits de confort, d'inconfort de chacun pour pouvoir composer pour qu'il soit bien sur le tournage. On a beaucoup répété avant. Et oui, j'avais l'impression d'avoir une relation très très différente avec chacun et puis de m'adapter un petit peu à leur fonctionnement. Mais ils avaient tous un très très bon instinct de jeu directement. Quoi, voilà.
Là où ils sont excellents aussi, c'est dans cette grande scène d'action qui est l'accouchement du jeune veau que vous avez filmé en direct.
Oui, ça fait partie des scènes qu'on a fait un peu en mode documentaire, dans le sens qu'on s'est adapté au vrai vélage de cette vache, comme le fromage, quoi. C'est des séquences où on s'est adapté à ce qui se passait en vrai. Et donc on était un peu, on attendait la vache. Quand la vache a commencé à montrer des signaux qu'elle allait véler, toute l'équipe s'est précipitée pour aller filmer, et c'est allé très vite parce que la vache était en fait très efficace. Donc on a eu 7 minutes pour tourner la scène la plus intense du film, mais c'était joli comme moment.
Et pas de deuxième prise.
Ah, pas de deuxième prise. On n'avait qu'un seul veau. S'il y avait eu des jumeaux, peut-être, mais là, non.
Alors, il y a aussi les scènes amoureuses. Et je crois que c'est la scène la moins sensuelle que j'ai vue dans tout le cinéma. Mais c'est très juste, en fait, entre les deux. Et la plus vraie. Et la plus vraie. Ouais.
Ben en tout cas, j'aime bien l'idée de pas mettre la sensualité forcément aux endroits de l'intimité. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de maladresse aussi dans ces moments-là, et on peut les raconter aussi. Et de mettre, par contre, de l'intimité ou de la sensualité ailleurs aussi, dans d'autres scènes. Enfin, voilà.
Vous êtes toujours au diapason avec la nature. La nature est super importante aussi dans le film. Vous la connaissez très bien. Elle était difficile à filmer?
Non, bah, pas du tout difficile pour moi, parce que c'est les paysages que je connais. Ouais. Donc même à l'écriture, je savais déjà où j'allais tourner, quel paysage. Je voulais justement qu'il y ait un peu un effet western avec ce format aussi en 2.35, en scope, pour pouvoir mettre en valeur justement ces paysages-là. Et je sais à quel endroit il y a de la brume, sur quelle plaine il y a de la brume, à quel endroit c'était... Enfin, la vue avec toutes les montagnes derrière, je savais où la trouver aussi. Enfin, voilà. Donc,
On bouge beaucoup à la campagne, hein.
Ah oui, mais on me l'a beaucoup dit, je m'en étais pas rendu compte en fait en faisant le film, mais c'est vrai qu'on est tout le temps en mouvement parce qu'on passe d'un endroit à l'autre, et c'est aussi des personnages qui font que bouger, quoi.
On a besoin de véhicules.
Ah. Bah d'ailleurs, au son, on a dû gérer les moteurs de moto.
Vous êtes venu avec vos acteurs à Cannes?
Oui.
Comment ils l'ont vécu, ça? Comment ils le vivent?
C'était très beau, c'était super. Bah, moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans cette expérience cannoise, c'est de pouvoir la vivre avec eux. C'était vraiment super. Ils étaient ouverts à tout, émerveillés par tout ce qui se passait. En même temps, assez loin de ce qu'ils connaissaient, mais très curieux, et c'était très joli.
Vous êtes né à Cannes? Cinématographiquement.
Ah oui, dans ce sens-là, oui.
C'est quand même fou ce qui vous arrive, quand même. Vous avez fait un premier film et il va à Cannes.
Et puis la Ciné-Fondation.
Oui, la Ciné-Fondation.
Le court-métrage avant.
Oui.
Ça que je parlais d'une naissance cannoise.
Bah, surtout, moi, j'ai fait la Ciné-Fabrique comme école. À Lyon. Et je faisais partie de la première promo, donc personne nous attendait, personne nous connaissait.
Avec
donc,
votre co-scénariste Théo Abadi.
Exactement. Et aussi ma monteuse, Sarah Grosset, mon chef opérateur, Elio Balezo. C'est une équipe de premiers films. Enfin, on fait tous notre premier film ensemble.
La bande.
Et on est venu déjà pour un court-métrage il y a 5 ans, et c'était une surprise, quoi. On s'y attendait pas du tout.
Vous avez des référents en tête quand vous faites du cinéma?
Mais moi, je fonctionne pas beaucoup je suis pas beaucoup dans l'imitation d'autres cinémas. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Peut-être, je me suis quand même un petit peu inspirée pour le ton de La Part des Anges de Ken Loach. J'aimais bien, en tout cas, c'est ça qui m'a donné envie de trouver à la fois de l'humour et en même temps une espèce de réalité sociale et quelque chose une authenticité, mais de la légèreté, quoi. Mais j'ai pas eu de... Enfin voilà, je me suis pas...
Il y a aussi du Guy Roddy ou du Pascal Thomas, j'ai trouvé. Voilà. Il y a
donc vous savez, les journalistes, on cherche toujours des références.
Mais vous êtes,
mais vous êtes unique. Rappelez-nous le titre avec l'accent, s'il vous plaît.
Un dieu.
Il a été facile à trouver ce film, ce titre ou pas?
Ben assez facile, pas tout de suite, mais qu'en fait quand j'écrivais les dialogues, ça revenait tout le temps parce que voilà, c'est ça qu'on dit tout le temps chez moi. Et en fait quand j'ai regardé comment ça s'écrivait, parce qu'en fait on le dit mais on l'écrit pas. Et je me suis dit c'est très joli écrit comme ça, donc voilà.
Le film sort.
Sorti le 11 décembre. En attendant, mangez du comté.
Merci Louise Courvoisier. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On oublie parfois ici à Cannes de le faire. Respirez. Alors merci Étienne Dao.
L'homme se consuma tout petit jeu, le charbon et les paupières en feu, sa anesthésie de poison sans visage. Et des chants de sirènes de passage. Le soir progresse et son manteau de givre s'étend sur ses mille visages. Et il dérive de séduction survie au grand art de l'esquive. Il esquive. Dresse-toi dans le ciel bleu clair. Paris, les drapeaux hissent et flottent haut et irradient. Les cloches à toute volée vont retentir. Laisse un pur oxygène lentement t'envahir et respire. 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 L'homme se consuma tout petit jeu, le charbon. Anesthésie de poison sans visage et des chants de sirènes de passage.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Et oui, toujours en direct de Cannes. Laurent, on va passer en revue quelques films, et notamment cette jeune femme à l'aiguille du Suédois Magnus von Horn, un portrait en forme de descente aux enfers et en noir et blanc d'une femme dans les années 20, qui va se retrouver complice de meurtres de bébés, inspiré d'un fait divers qui a traumatisé des générations de Danois, et quelques festivaliers ici, mais le sadisme du film vient plus de la réalisation que du sujet, un film malaisant et esthétisant dans l'escalade du pire.
Oui, c'est le troisième long métrage de ce cinéaste suédois, effectivement. Quel est franchement l'intérêt de ce déchaînement d'images qui partent effectivement d'un auto-avortement à l'aiguille, hein, quand même, d'où le titre du film, jusqu'aux infanticides dont vous parliez. Tout est volontairement glauque, de façon tellement apprêtée, la moindre assiette est... sale mais sale, le moindre recoin est poussiéreux, l'image est sans cesse déformée pour malmener les visages, à l'instar notamment de la complaisance avec laquelle le cinéaste filme une gueule cassée, vous savez, ces soldats revenus de la guerre avec ce qu'on appelait des gueules cassées. Tout ça laisse un profond sentiment de malaise, et moi j'avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre pourquoi on nous montrait ce film en compétition pour la Palme d'Or.
Le retour de la cinéaste britannique Andrea Arnold après 3 prix du jury pour Red Road, pour Fish Tank, pour American Honey, avec ce film Bird, le portrait d'une jeune fille de 12 ans, Bailey, dans un squat d'une petite ville du Kent, aux côtés d'un très jeune père tatoué des pieds à la tête et à la veille de se remarier, tandis que sa mère, elle, vit misérablement dans un pavillon à côté d'un compagnon drogué et ultra-violent. Une plongée hyper réaliste dans ce milieu. Caméra à l'épaule, calée à son héroïne, Andrea Arnold sait faire et associe cette fois une veine onirique et fantastique. Bellet rencontre cet homme oiseau. Existe-t-il ou est-elle la seule à le voir et qui va peut-être lui ouvrir un avenir? J'ai beaucoup aimé Moins vous, Laurent. Merveilleux cocktail, immense jeune actrice.
Oui, c'est drôle parce que Louise Courvoisier vient de nous parler de Ken Loach. On peut pas s'empêcher de penser quand même à Ken Loach et à la filiation britannique d'Andrea Arnold.
De
toute évidence, moi je trouve quand même. Mais bon, et j'avoue que je trouve plus mon contentement chez Louise Courvoisier en l'occurrence que chez Andrea Arnold, qui déroule son protocole presque compassionnel avec beaucoup d'aisance et d'une certaine façon de brio. Vous avez raison. Mais moi, j'avoue que le surgissement en quelque sorte du genre animal me laisse un peu perplexe. Une hirondelle ne fait pas le printemps et un oiseau monstre non plus.
J'accepte la métaphore, tellement le film est tellement joliment et bellement réalisé. Bonjour Jonathan Millet.
Bonjour.
L'autre choc de ces compétitions parallèles, c'est ce premier film qui a ouvert la semaine de la critique, votre film Les Fantômes Extraits.
Tu dois continuer.
Tu me crois, toi? Peut-être je me trompe, peut-être c'est même pas lui. Je ne sais plus. Je ne peux pas rester ici.
Tu ne peux pas arrêter là. Si on s'occupe de lui, tout le cauchemar, ça s'arrête.
Si un peu choc, il peut se faire.
Hamid est membre d'une organisation secrète qui traque les criminels syriens cachés en Europe. Dans ce film Les Fantômes, Jonathan Millet, sa quête le mène à Strasbourg, sur la piste ou pas de son ancien bourreau. Oui, et à la différence d'un film d'espionnage habituel, l'espion est une victime. On peut dire que ce sujet vient de loin. Alep, vous connaissez pour y avoir vécu à 20 ans. Et vous les connaissez aussi, ces exilés, tous ces destins individuels dans la grande histoire. Vous les avez écoutés, racontés, la guerre, la torture?
Oui, tout à fait. Moi, souvent, le réel agit comme un point de départ. C'est cette curiosité-là qui me fait dire, tiens, j'ai envie de raconter cette histoire. Et donc, je viens du documentaire, je passe du temps à écouter ces histoires. Et je me suis dit, je veux comprendre comment le raconter. Au départ, c'était la question du trauma, comment on raconte en tant qu'exilé, en tant que réfugié de guerre, comment on vit avec au fond de soi tous ces traumatismes. Et je cherchais le moyen, je cherchais par quel film, par quel biais pouvoir raconter cette histoire. Et
faire du cinéma avec ça, quoi.
Exactement, oui. Je cherchais la promesse de cinéma là-dedans.
Oui.
Et j'ai utilisé le thriller, le film qui nous emporte, parce que dans le fond, pour moi, c'était la meilleure façon de raconter la puissance de ces récits, la puissance de ces histoires. Ces exilés, aujourd'hui, ils vivent dans leur histoire vraie des films d'espionnage, des films d'aventure. Ils sont retrouvés confrontés à des enjeux incroyables, bien plus grands que ce que n'importe quel scénariste pourrait jamais imaginer. Et je me suis dit, je veux que par ce film, le spectateur puisse être complètement happé par cela.
Vous avez dit votre besoin de cinéaste documentariste, c'est-à-dire pour vous, c'est une autre étape, c'est une autre façon d'envisager votre métier.
Pour moi, c'est toujours une manière de pouvoir raconter et transmettre et faire ressentir. Donc là, j'utilise les moyens de la fiction parce que ça me paraît être la meilleure manière pour le spectateur de vivre de plein fouet ces enjeux-là.
Ils sont dans un vrai monde parallèle, ces chasseurs de preuves. Ils sont dans toute l'Europe, ils traquent les criminels de guerre, ce sont des héros jamais mis en lumière. Et surtout, ce ne sont pas des espions de profession, ce sont des gens qui ont eu d'autres métiers avant.
Complètement, complètement. Moi, les espions qui m'intéressent le plus, c'est les espions qui ne sont pas formés.
Oui.
Et quand tout se mélange, quand l'intime...
Ce sont des amateurs.
Et ce sont des amateurs, et du coup... Ils doivent mentir pour leur situation et aussi mentir à leur propre mère pour les rassurer. C'est des espions auxquels on peut s'identifier. C'est des espions qui nous ressemblent, c'est des espions qui ont chacun leur propre manière d'être et d'envisager le monde, et ils se retrouvent confrontés à la très grande histoire.
Ils se méfient les uns des autres. C'est-à-dire que ce film montre aussi une chose, c'est une communauté syrienne divisée.
Oui, tout à fait. Et encore une fois, c'est une manière de raconter le monde tel qu'il est.
Oui.
Et le monde tel qu'il est ressemble à un film d'espionnage où on a plusieurs camps et on se méfie les uns des autres. Et donc, le film raconte d'une part la réalité, c'est une manière de la voir, et d'autre part, vraiment ressemble à un scénario d'un vrai thriller où il faut choisir son camp, où on se méfie de chacun, où on peut pas donner les informations, et on pénètre dans le film à travers un personnage, et on va prendre les informations en même temps que lui, et découvrir ces mondes-là et cette réalité-là.
Le défi énorme, c'était donc de filmer l'écoute, le tactile, l'odeur, qui est super importante, parce que ces gens qui ont été victimes de bourreaux n'ont pas vu leur bourreau qui était cagoulé. Donc d'autres sens se sont développés. C'est dur de filmer l'odeur au cinéma, mais la scène, on va pas la décrire, est incroyable quand il poursuit ce jeune garçon.
Quelque part, vous nous cagoulez parce qu'on ne voit pas tout ça.
Moi, j'ai été emporté par cette histoire quand j'ai entendu, parce que je me suis dit, il y a que des promesses de cinéma.
Ouais.
Et il y a là matière à pouvoir complètement emporter le spectateur si la promesse est tenue.
Absolument.
Donc, on a travaillé, on a préparé, on a essayé, et l'idée, c'est vraiment que le spectateur puisse ressentir, se placer au cœur des pensées bouillonnantes de notre personnage, et vivre étape par étape toute cette quête d'un homme dont on ne connaît pas le visage. Et donc, on vient écouter la voix, on vient se demander si il est possible de reconnaître une voix ou non. Tout ça vient d'une histoire vraie, d'un Syrien qui me raconte, tiens, je suis dans un supermarché, et je reconnais mon bourreau. Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai entendu sa manière de marcher.
Incroyable.
Et j'étais sûr que c'était lui. Et là, je me suis dit, tiens, il faut faire un film de ça.
Ce qui est fou, c'est que cet homme qui poursuit cet autre homme doit faire aussi le deuil d'une famille, de sa femme et de son enfant. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un double enjeu terrible. Et effectivement, il y a une dramaturgie folle.
Moi, j'adore les films d'espionnage, les grands films qui nous happent en tant que spectateurs.
Ouais.
Mais ce que j'aime d'autant plus, c'est quand on raconte à travers ça des personnages. Et pour moi, le film d'espionnage, c'est aussi la solitude. C'est quelqu'un qui est seul avec soi-même et qui, là, doit se retrouver. Donc, à travers sa quête, petit à petit, le personnage va essayer de retrouver qui il était. C'est une vie brisée et il va petit à petit revenir vers la vie.
Je n'ai pas cessé de penser aux 3 jours du Condor.
Complètement. J'adore ce film et je pense aussi, et c'est l'occasion d'en parler à Scan, à Coppola et à Conversation Secrète.
Bien sûr.
Pour moi, Conversation Secrète, c'est un film sur la solitude, c'est un film sur l'obsession et très clairement, c'est une des boussoles d'écriture.
Ouais.
Après, dans ce film, je me réapproprie les codes d'espionnage. Je veux le raconter différemment.
Mais pas la parano, en revanche.
Oui, la parano est là.
Évidemment, évidemment.
C'est le personnage principal du film.
Hamid communique avec d'autres personnes de son réseau qui ne le croit pas forcément tout de suite. Il communique à travers un jeu vidéo. Et ça, c'est une idée absolument géniale, mais c'est une idée qui existe dans la vraie vie.
En fait, ça me paraît aujourd'hui une extraordinaire idée de cinéma, et c'est profondément inspiré du réel. Parce que dans le fond, quel est le seul endroit sur Internet où on peut parler de manière sécurisée d'attentats, de bombes, de tués et d'attaques? C'est un jeu vidéo de guerre. Donc ça vient du réel, c'est ce qui se passe. Et quand je l'écris dans mon film, je me dis, c'est un rapport au hors-champ et à la violence de la guerre qui est incroyable. Ça nous emporte, ça amène une image enfouie. C'est le personnage, c'est extrêmement cruel de se retrouver face à son propre jeu vidéo et ça crée une rythmique d'image qui me parle beaucoup.
Vos deux acteurs ne sont pas syriens, Adam Bessa est franco-tunisien et Taoufik Barom, lui, est palestinien, vu dans la conspiration du Caire. Il fallait prendre l'accent syrien aussi.
Il fallait prendre l'accent. C'était des mois et des mois de travail. Et surtout, ce qu'on a travaillé avec les personnages, c'est les gestes. Je veux un film où on puisse tout ressentir par les gestes. J'aimerais qu'on puisse le voir en muet et qu'on puisse comprendre l'ensemble de ce qui se joue en eux. L'idée, c'est de pouvoir avoir accès à tout moment à ce qui se passe au plus profond de l'être de notre personnage. C'est un film de corps. C'est pas un film qui est fait pour nous bombarder d'informations. C'est un film qui est fait pour qu'on ressente et qu'on navigue avec le personnage. Donc avec Adam, le comédien, on a passé des semaines à travailler tous les gestes qui racontent exactement ce que son personnage a vécu. Et je crois qu'inconsciemment, le spectateur les vit.
L'actualité vous rattrape, puisque entre le 21 et le 24 mai aura lieu à Paris le premier procès des responsables du régime syrien, donc en France. Trois dignitaires accusés de crimes contre l'humanité.
Exactement, exactement. Il y a eu les premiers procès en Allemagne il y a 2 ans. Là, c'est le premier procès en France. Il arrive pendant la clôture de la semaine de la critique. C'est vraiment un parallèle assez incroyable. Au moment où j'écrivais le film, on n'était pas sûr qu'il y ait ces procès. les groupes travaillaient dans vue d'un hypothétique procès. Je trouvais ça extrêmement fort. Ces gens qui ont donné toute leur vie à se dire « je crois que peut-être justice peut être rendue ». Moi, c'est ce qui m'a le plus touché dans cette histoire. C'est que ce soit contemporain, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et les procès ont lieu la semaine prochaine.
Vous y serez à Paris ?
J'y serai, bien sûr.
Prendre des notes ?
Un plus que des film. Notes, peut-être même des idées, on verra.
Des idées, des images. Où est-ce que vous avez appris à filmer? En fait, vous êtes un self-made, je veux dire, vous avez appris à filmer parce qu'on vous demandait de filmer, de faire des banques d'images au départ.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai l'impression qu'en tant que réalisateur, on amène un peu ce qu'on est au cinéma. Certains écrivent, d'autres sont peintres, d'autres photographes. Moi, vraiment, c'était le voyage et une appétence pour essayer d'être curieux envers le monde tel qu'il est. Et donc, j'ai beaucoup voyagé et je me suis retrouvé à être embauché pour faire des images pour des banques de données d'images ou des ONG. C'est-à-dire que je me retrouvais 2-3 mois dans un pays et il fallait essayer en un plan de capturer l'atmosphère d'une ville, un sentiment, quelque chose de précis. Et donc, j'ai appris tout seul et à chaque fois, j'essayais de progresser ainsi. En tout cas, c'était mon école de cinéma.
À travers ce film, vous voulez rendre compte de la folie de ces récits, mais vous dites, moi, je cherche la lumière.
Oui, je cherche la lumière, c'est-à-dire que j'ai donc passé beaucoup de temps avec des exilés et à entendre ces récits, et j'ai surtout envie d'en faire des héros de cinéma.
Oui.
Parce que quand j'entends ce par quoi ils sont traversés, et quand je vois à quel point on se ressemble, à quel point chacun a une vie qui est propre, je crois pas au récit général sur les exilés, je crois que chacun a sa propre histoire, et j'ai envie de faire des vrais héros de cinéma. Alors dans ce film, c'est des héros tragiques, mais des héros qui croient en un but que je trouve absolument incroyable, qui tentent de se dire... On n'est pas cloué au sol parce que la justice internationale nous a programmé.
On peut songer à Serge Klarsfeld, par exemple. Dans votre
oui, bien
esprit.
Sûr, bien sûr.
Si on sauf fait des que parallèles.
Là, il s'agit de chercher des bourreaux pendant que la guerre a lieu.
C'est vrai.
Il s'agit de gens après, qui sont sortis de prison ensemble et qui n'ont pour lequel il n'est pas encore prouvé qui sont les gentils et les méchants de cette histoire.
Merci pour ce merci film magnifique, intelligent, qui sort le 3 juillet.
Le 3 juillet, tout à fait.
Et qui s'appelle Les Fantômes. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On va continuer avec la compétition. Laurent, quelques mois après son Lion d'Or à Venise pour Pauvres Créatures, voici Yorgos Lanthimos avec Kinds of Kindness. Titre ironique, puisqu'il n'y a aucun gentil dans cette histoire. Un triptyque avec deux de ses acteurs fétiches, Emma Stone et Willem Dafoe, plus Margaret Qualley et Jesse Plemons. Comme une réincarnation de Philip Seymour Hoffman. Trois histoires de manipulation mentale dans lesquelles les acteurs jouent un rôle différent dans chaque partie. Le premier segment est le plus réussi. L'ensemble est trop long, trop malin, transgressif et plein d'affaîtrie, Laurent.
Mais oui, il est en surplomb permanent, Lanthimos, de ses personnages. Alors on a l'impression comme ça d'un entomologiste qui regarde l'humanité grouillante avec dans des décors glacés et glaçants de l'hyperluxe. Et puis, il les fait passer de sentiments à d'autres paroxystiques. Il ne les aime pas. Il n'a pas envie de nous les faire aimer, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Jusqu'où peut-on aller par amour? Eh ben, dis donc, à ce point-là, loin, très loin, sans doute. En tous les cas, moi, j'ai pas envie d'aller jusqu'à l'amour du cinéma de Lanthimos, qui me semble d'une provocation absolue. Vous irez vous faire votre idée le 26 juin.
Au Canada de Schrader, de Paul Schrader, un célèbre documentariste incarné par Richard Gere, à l'approche de la mort, se laisse filmé par deux de ses anciens étudiants pour dire enfin toute la vérité sur sa vie et sous les yeux de sa femme, incarnée par Uma Thurman, un film inspiré du roman de Russell Banks, derrière la petite légende, objecteur de conscience en 68, l'âpre vérité intime et très peu héroïque. Là.
C'est vrai, c'est drôle parce que la semaine dernière avec Arnaud Desplechin, nous parlions beaucoup de Richard Gere dans Pretty Woman, on aurait pu aussi parler d'American Gigolo.
Voilà. Réalisé par Paul Schrader.
Mais voilà, exactement, c'est pour ça que j'en parle. Et là, on a un Richard Gere absolument mélancolique, âgé dans le déclin de sa vie et qui est évidemment une métaphore de Schrader lui-même. C'est un autoportrait, ce film. Ouais. C'est presque pour moi l'anti-Coppola, hein, dans la démarche. Il a 77 ans, il fait le bilan de sa vie, à la fois ce personnage et ce cinéaste. C'est crépusculaire, c'est mélancolique, c'est absolument bouleversant.
Et vraiment, ce serait trop beau d'attribuer le prix d'interprétation à American Gigolo. Une belle surprise roumaine Ardennes, 3 km jusqu'à la fin du monde. Il s'appelle Emmanuel Parvu. Adi, 17 ans, passe l'été dans son village natal insulaire, proche du détroit de Danube. Du Danube, un soir, il est violemment agressé dans la rue. Une homosexualité révélée dans une petite communauté roumaine très conservatrice, des parents dépassés, un prêtre omniprésent, une police qui ferme les yeux pour servir ses propres intérêts, un scénario brillant, une mécanique implacable qui étudie les situations sous tous ses aspects, finesse, intelligence, mise en scène, grand jeu des acteurs.
Oui, on se dit que l'expression « belle surprise roumaine » est un pléonasme en voyant les films roumains. Alors celui-là est un court-métrage, 1h45 pour un film roumain, c'est vraiment de tout petit, mais ça marche extraordinairement dans une région qui est rurale, contrairement d'ailleurs à beaucoup de films roumains qui se passent en ville avec des problèmes d'attitude urbaine très forte. Là, c'est dans le delta du Danube, nous dit-on, on a envie d'y aller, même si les réalités que nous décrivent ce film sont pas très sympathiques, vous le disiez, vous les développiez très très bien. Non, c'est une façon, une fois de plus, de raconter une histoire qui n'appartient qu'au cinéma roumain.
Avant d'entendre Claire Simon, trois films à l'acide, Laurent.
Oui, alors...
on aura tout couvert.
Ben voilà, vous savez, l'acide, c'est la dernière petite sélection, née en fait dernièrement, il n'y a pas très longtemps. C'est trois documentaires sur lesquels, juste, pas beaucoup insister, mais ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Braque, c'est la fin des années lycée. Là aussi, c'est plein de mélancolie, mais aussi plein d'espoir. Il y a un autre documentaire qui s'appelle Un pays en flammes de Mona Convert. Et là, c'est extraordinaire sur une famille d'artificiers. Ils passent leur vie à faire des feux d'artifice. Et c'est vu de leur point de vue et non pas d'une autre qui est du point de vue des spectateurs. C'est absolument merveilleux. C'est un hymne à la vie. Et puis, j'en terminerai par Château Rouge d'Hélène Milano. Château Rouge, c'est le quartier de la Goutte d'Or. Le lycée Georges Clémenceau, des ados en devenir et des adultes qui sont là pour eux, là aussi, merveilleux documentaire. On voit des pépites à l'acide et à Cannes.
Et en séance spéciale, 32 ans après Récréation, la réalisatrice Claire Simon revient à l'école, au cours élémentaire à Anton Makarenko, à Ivry-sur-Seine. Ça s'appelle « Apprendre », une plongée dans le monde de l'éducation et le rôle crucial des enseignants. Une merveille, personne ne filme les enfants comme Claire Simon. Nous l'avons rencontré.
Bonjour à tous.
Bonjour, maîtresse Sophie.
Vous allez bien ?
Oui.
Bonjour, Yanis.
Bonjour, maîtresse Sophie, ça va très bien.
Bonjour, Mathia.
Bonjour, maîtresse.
Comment vas-tu ?
Bien.
Tu peux enlever ton gilet, ma grande, il fait chaud. Hein.
Quand j'ai vu l'école Makarenko, j'ai trouvé ça vraiment génial. D'abord parce que la cour était immense, que c'était jaune et orange au milieu d'un décor tout gris, etc. Puis j'ai rencontré le directeur et je l'ai trouvé vraiment génial, quoi. Et je lui disais, ouais, et puis j'ai assisté à des récréations et tout. Et puis je lui disais, oui, ça m'intéresse aussi, la baston dans la cour et tout. Il m'a dit, pas de chance, on a réduit de 80% la violence en récréation. Parce qu'on a enseigné aux enfants à discuter, à ce qu'il y ait des enfants médiateurs, etc. Et quand j'ai commencé à tourner en récréation, c'est des enfants qui ont pas beaucoup, dont les parents sont pas très fortunés, et je me suis rendu compte, y avait pas de billes, pas de Pokémon, voilà, et le genre c'était assez flottant. Et je me suis dit, et puis un jour j'ai vu le maître Mohamed qui emmenait les enfants à la bibliothèque de l'école. Et je suis montée avec lui en classe. Et la première chose que j'ai filmée en classe, c'est les enfants en train de lire. Et j'ai trouvé ça tellement beau, mais tellement fort. Ils lisent un quart d'heure, ce qu'ils veulent. Voilà.
Filmer à hauteur d'enfant, ça veut bien dire quelque chose. Comment on fait ?
Mais parce que on est, moi je suis à côté d'eux, j'essaye de comprendre ce qu'ils ressentent, et c'est pas très difficile avec les enfants parce que c'est tout leur visage dit ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Et donc j'étais dans la classe à côté d'eux, je circulais très librement avec l'ingénieur du son. Les enfants, au bout d'une semaine, ils m'ont totalement accepté.
Pas de regard caméra, d'ailleurs. Pratiquement pas.
Ils passent en vitesse, mais ce qui se passe pour eux est plus important que le fait que je filme. Et ce qui m'a bouleversée, c'est de voir ces enfants qui ont hyper envie d'apprendre et tout, et dont, pour beaucoup, les parents sont des immigrés, et... que tous les clichés qu'on entendait sur la banlieue s'effondraient les uns derrière les autres. La première fois que je suis allée dans la classe du professeur Mohamed, il a dit d'une voix très basse comme ça, « Oh, il y a trop de bruit ici !» Et tout d'un coup, tout le son de la classe est descendu.
Il y a beaucoup de cinéma dans ces classes, en fait. Hein. Il y a une dramaturgie, il y a des visages, il y a des acteurs.
Voilà.
C'est un plateau de cinéma, une
classe. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je me disais, la classe, ça va pas être intéressant et tout. Puis j'ai découvert qu'il y avait une dramaturgie d'enfer, que les enfants étaient complètement passionnés, que c'était, c'est ça qui est extraordinaire. Et moi, j'adore filmer les enfants. Je trouve que leur, tout est clair.
On a l'impression qu'on raconte un conte de fées là en ce moment, Claire, que cette école est idéale.
Elle n'est pas idéale, ce sont des gens qui, autant les enfants que les professeurs, qui croient que on peut vivre ensemble. Et puis il faut faire attention, les enfants c'est l'avenir, c'est hyper important, c'est eux l'avenir, hein. Il ne faut pas les maltraiter.
C'est important que ce soit à Cannes ce film pour vous?
Ah, pour moi c'est fondamental, ouais, j'en reviens pas. Pour cette école, pour ce que ça raconte, c'est le contraire de tout ce qui est dit aujourd'hui. Je veux dire, contre les immigrés, contre l'immigration, contre l'éducation nationale, contre le, comme si par exemple, ben voilà, je pensais à ça, la rigueur dans l'école, l'autorité, ben on le voit là, il y a de l'autorité dans l'école, hein, il y a de l'autorité tout le temps.
Louis prend son bus, car tous les matins, avec son doux parfum, qu'elle vienne à lui parler. Il espère tous les jours ce qu'il ressent au fond de lui, c'est son appel à moi. Mais oui, il est timide et elle est si belle, il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son ciel. Une fois qu'il a souri quand elle est descendue, et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. Voilà, je dis assez dommage, assez dommage.
C'est trop joli.
Magnifique.
Magnifique.
Simon,
ça
magnifique.
S'appelle Apprendre de Claire Simon. Un autre doc, Laure, dont on peut évoquer en quelques mots, c'est mené par François Chadet, notamment dans ce film sur François Truffaut, ce doc, Le scénario de ma vie, François Truffaut, réalisé par David Teboul.
Oui, absolument. C'est une sorte de Truffaut par Truffaut parce que c'est fondé sur des archives. Alors, il y a des interviews de Truffaut connus, méconnus, voire inédits, des extraits de sa correspondance avec son père adoptif, et puis surtout un récit qu'il avait entrepris, hélas, peu avant sa mort en 1984. On voit les souvenirs de son enfance déchirée, comme on voit aussi le souvenir de la maison des morts, parce que lui avait insisté auprès de son médecin pour vivre jusqu'à la naissance de la fille qu'il a eue avec Fanny Ardant.
Je crois qu'on a le temps de passer un petit extrait de ce documentaire. Allons-y.
En 1959, quelle était votre principale qualité?
C'était de foncer dans le brouillard.
Est-ce que vous l'avez encore, cette qualité?
Non, je suis beaucoup plus prudent, je crois.
Et pourquoi?
Parce qu'on devient craintif, on ne peut pas croire dans la chance, et puis on apprend des choses. Ces choses qu'on apprend vous rendent le travail plus difficile. On a davantage de choses à contrôler, de plus en plus de choses à contrôler. Plus on a de choses à contrôler, plus on a le sentiment de ne pas les contrôler autant qu'il faudrait. Ce qui fait certainement une inquiétude supplémentaire et des doutes aussi.
Et si on terminait avec elle, Meryl Streep, Palme d'Or d'honneur, et qui donnait cette semaine rendez-vous au Festivalier, un public très nombreux. Et cette anecdote, pour le plaisir, sur le tournage d'Out of Africa de Sidney Pollack.
Donc, en tournée dans la rivière, et les hippopotames étaient juste à côté. Je ne sais pas si on le voit dans le film, mais j'avais pleinement conscience de leur présence. Et Redford était en train de me laver les cheveux comme ça. Donc, Roy, mon responsable coiffure et maquillage, s'approche et il dit, il faut faire comme ça. Et j'adore quand il me fait ça à la fin de la journée. Donc, Redford a bien écouté et puis il s'est appliqué. Il était incroyable. Cinquième prise, bah, j'étais vraiment amoureuse. Et c'est un geste tellement tendre. C'est une scène de sexe presque. C'est tellement intime. On a vu tellement de scènes où les gens font l'amour, mais on voit rarement des scènes pleines d'amour et de tendresse. C'était magnifique.
Vous Voilà, c'était notre première semaine à Cannes, vue par nous. On attend aujourd'hui, bien sûr, on est en direct, mais en ce moment, les journalistes découvrent le nouveau film de Jacques Audiard. Alors.
Les Vénards. Les Vénards. Oui. On voit aussi des vieux films, comme n'aimait pas dire Bertrand Tavernier à Cannes, il a bien raison de ne pas aimer ça. On a vu Napoléon d'Abel Gance, enfin les trois premières heures. On voit aussi l'Armée des Ombres restaurée, et puis on fêtera les 60 ans des Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Bon programme.
Merci, alors merci. Beaucoup de merci à Raja Boudni et à toutes les équipes de France Inter. Merci. Et de Radio France. Merci à Stéphanie Texier et Xavier Pestudia pour la réalisation, à Christophe Magère pour la préparation, à Thierry Dupin pour la programmation musicale. On se retrouve bien sûr samedi prochain et toujours à Cannes. Au revoir.
Salut.
Un monde presque parfait, le nouveau best-seller de Laurent Gounelle. Parce que choisir sa vie, c'est choisir son monde, David Lissner se risque à une mission de haute sécurité pour sauver sa société hyper connectée. Mais pourquoi David fait-il exactement ce qu'on attend de lui ? Sur son chemin, Ève, une jeune femme libre, n'entend pas se laisser dicter sa vie. Un monde presque parfait, de Laurent Gounelle. Un roman initiatique qui donne envie de retrouver son pouvoir de décision et sa liberté. Aux éditions Mazarine.
On sait que certains pensent qu'un téléphone dernier cri...
Bah, c'est pas donné.
Et que le reconditionné...
On sait pas toujours sur quoi on tombe.
Mais chez Orange, les téléphones reconditionnés sont testés et vendus avec une garantie commerciale de 24 mois. En plus, du 16 au 22 mai, c'est la semaine du reconditionné. L'occasion idéale pour découvrir notre sélection à prix réduit.
Ah, alors là, d'accord.
Orange est là.
Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine du 16 au 22 mai 2024, réservée aux particuliers. Conditions en boutique et sur orange.fr.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, avec AG2R La Mondiale, constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur AG2RLaMondiale.fr. AG2R, La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perdre ton capital.
Merci Clément Vuillet d'avoir été aux manettes aujourd'hui.